affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'édition scientifique qui connaît, elle aussi, sa révolution numérique. Les nouveaux moyens à notre disposition permettent de diffuser largement des articles, des logiciels ou des données expérimentales. C'est ce qu'on appelle la science ouverte. Elles mettent à la disposition de tous les produits de la recherche de façon libre et gratuite. Il y a donc là des défis majeurs pour l'avenir, mais en pratique, cette ouverture n'est pas si simple pour les chercheurs ou pour les éditeurs. Il faut aussi assurer une qualité à ces contenus. Nous allons essayer de comprendre tous ces enjeux avec vous, Denis Jérôme, bonjour.
Bonjour.
Alors Denis Jérôme, vous êtes physicien et vous êtes membre de l'Académie des sciences. Et ce sujet de la science ouverte préoccupe beaucoup actuellement votre académie, qui vient de publier un avis sur le sujet. Vous y avez été très actif. Et puis l'académie accueille également un grand colloque international les 4 et 5 février, Open Science. Pour commencer, nous allons peut-être revenir aux origines des publications scientifiques. Elles sont nées à peu près en même temps que l'avènement de la science moderne, en même temps aussi que les académies. Quel était l'objectif de ces publications, dont la première en France date de 1665?
Oui, enfin, l'Académie des sciences y a joué un grand rôle, puisqu'on peut dire que l'Académie des sciences, avec ce qu'on appelle le Journal des savants, a publié sa première publication à l'usage des scientifiques. D'ailleurs, c'était à peu près en même temps que la Royal Society de nos amis britanniques, qui a aussi publié les Philosophical Magazine. Ça a été le début des publications scientifiques par les sociétés savantes.
Alors, l'idée, c'est de diffuser très largement l'information scientifique qui, jusque-là, était réservée à des correspondances privées. Là, on pouvait toucher un public plus large.
C'est exact, mais c'était toujours réservé, je dirais, au milieu des scientifiques. Et ce n'était pas à cette époque, pour des raisons évidemment techniques, de l'impression, etc. Ce n'était pas ouvert à toute la société.
Au XXe siècle, il y a un véritable tournant dans ce monde de l'édition scientifique avec l'entrée de nouveaux acteurs. Ce ne sont plus seulement les sociétés savantes qui s'en préoccupent, mais aussi des entreprises privées, commerciales.
Alors, oui, c'est dû essentiellement à une énorme croissance du milieu des scientifiques au niveau mondial, qui ont besoin de communiquer entre eux. Et aussi le fait que, je dirais que les acteurs traditionnels, qui étaient les sociétés savantes, ont laissé un peu ce domaine à des éditeurs privés, de très gros éditeurs privés, qui finalement faisaient leur travail d'édition, apportaient des valeurs ajoutées, il est vrai, et au fond, ont réalisé que c'était un marché sur lequel ils pouvaient faire de très gros bénéfices. Et actuellement, il y a 4 éditeurs privés, très gros éditeurs, qui se partagent à peu près les 2/3 du marché des publications, sur lesquels ils font des bénéfices colossaux, qui peuvent monter jusqu'à peu près 40% du chiffre d'affaires, ce qui est quand même énorme pour une activité de publication.
Et là, nous sommes au niveau mondial.
Et nous sommes au niveau mondial. Et ça touche au moins une dizaine de milliards d'euros, sinon le double. Enfin, ce n'est pas très facile à estimer le marché total.
C'est donc un marché colossal, nous l'avons compris. Alors, Internet, depuis quelques décennies, change la donne et vient à la fois assurer une diffusion possible beaucoup plus large, mais avec aussi des enjeux d'ouverture ou de fermeture, de rendre ces articles payants ou gratuits.
Oui, alors l'origine de cette transition vers l'ouverture de la science, ça remonte à peu près il y a 20 ans, lors de ce qu'on appelle la Déclaration de Budapest. Alors la Déclaration de Budapest, c'était en fait une heureuse rencontre entre l'aspiration à l'ouverture des articles scientifiques et des possibilités de la technique pour créer un bien public. C'est-à-dire, à la fois, les chercheurs souhaitaient un peu que leurs articles soient publiés plus largement entre eux et aussi vers la société. Et aussi, il y a une vingtaine d'années, c'est le grand développement, je dirais, de l'Internet. Et tout ça, cette rencontre a formé un bien public qui s'appelle effectivement la science ouverte. Il faut quand même remarquer que 10 ans auparavant, on avait déjà observé la mise sur des serveurs des pré-publications, ce qu'on appelle en anglais des pré-prints. Ça avait été inventé par Paul Ginspark, un physicien aux États-Unis. Mais là, il s'agissait des résultats de recherche qui n'étaient pas validés. C'est-à-dire chacun pouvait mettre ses résultats sur serveur. La science ouverte, c'est très différent. Ce sont des résultats validés qui sont ouverts à tous les chercheurs ou même à toute la société.
Il y a donc un processus d'évaluation. Ce n'est pas n'importe quel contenu qui est ainsi mis à la disposition du public.
Exactement. L'évaluation, comme elle a lieu pour les éditeurs traditionnels, puisque dans les revues, ce qu'on appelle les revues à comité de lecture sont précisément des revues qui publient des articles qui ont été lus et révisés éventuellement par des rapporteurs externes et dont il est tenu compte de leur rapport dans la publication finale. Et ça serait exactement la même chose pour une science qui serait ouverte.
Alors c'est intéressant parce que nous sommes dans un mouvement similaire à ce qu'on peut voir par exemple dans le monde de la culture avec la licence Creative Commons. On voit par exemple de nombreux musées mettre à disposition du public des images d'œuvres d'art. Les musées de la ville de Paris s'y sont mis, le Met par exemple aux États-Unis. Dans le domaine scientifique, quels sont les produits qu'on peut ainsi mettre à la disposition du public? Il y a des articles, mais pas seulement.
Oui, alors attention, la science elle est non seulement ouverte, mais elle est libre. Et libre, justement, ça se rapporte aux données de la science qui sont mises à disposition, justement, avec cette licence Creative Commons, CC BY. C'est-à-dire que quiconque est libre de réutiliser ces données du moment qu'il cite, je dirais, les auteurs. Et alors, il y a différentes, d'ailleurs, licences, certaines, même l'usage commercial est accepté pour certaines licences. Mais ce qui est très important, c'est que la science doit être ouverte et libre. Et ça, c'est un point aussi important, parce qu'actuellement, les données représentent, et surtout dans les données en génomique, enfin en biologie et en génomique, représentent, je dirais, commercialement parlant, quelque chose d'extrêmement important. Et on a bien vu, au niveau de la pandémie actuelle, qu'il est très important que les données génomiques, ça permet éventuellement de prévoir les évolutions des différents variants, elles soient ouvertes. Ce n'est pas le cas pour tous les pays actuellement, où il y a certains pays qui, je dirais, retiennent leurs données.
C'est-à-dire que, par exemple, un chercheur pourrait mener une nouvelle étude en profitant d'une base de données qui existe déjà.
C'est absolument le cas. C'est aussi une manière un peu d'économiser un petit peu les efforts.
Alors, aujourd'hui, quelle est la part des contenus ouverts et des contenus fermés dans le domaine scientifique?
Alors, c'est très variable. Si on fait le total, on pourrait dire qu'à peu près 50% de ce qui est publié actuellement est ouvert. Ça veut quand même dire qu'il y a 50% qui est fermé. Et quand on dit qu'il y a 50% d'ouvert, il faut voir dans quelles conditions. Parce que la véritable science ouverte, c'est celle qui est ouverte dès la publication. Or, en France, par exemple, nous avons adhéré, nous avons la loi, ce qu'ils appellent loi République numérique, qui demande à ce qu'un article soit ouvert 6 mois ou éventuellement 12 mois, ça dépend si c'est les sciences dures ou si c'est des sciences SHS.
C'est-à-dire les sciences humaines et sociales?
6 ou 12 mois après la publication. Or, l'Europe, actuellement, avec ce qu'on appelle la coalition Est, c'est-à-dire un ensemble d'organismes qui est d'accord sur certains principes, demande que l'ouverture soit immédiate.
Et donc, ça peut poser des problèmes, par exemple, avec les contrats qui sont passés avec les éditeurs ?
Ça peut poser des problèmes. Alors, je dirais qu'il y a... Il y a quand même différentes voies d'ouverture, et c'est ça que nous suggérons, enfin nous faisons remarquer dans le rapport de l'Académie, c'est que même avec des systèmes d'abonnement, parce qu'actuellement, l'information scientifique passe à peu près 50% par des abonnements. Les abonnements ne sont délivrés qu'aux organismes, aux universités qui ont payé l'abonnement. Tandis que la science ouverte, c'est tout le monde. À accès, il n'y a plus de problème d'abonnement. Mais je dirais, même dans le système d'abonnement, il y aurait des possibilités d'ouverture. C'est ce qu'on appelle le système « subscribe to open », c'est-à-dire établir une relation de confiance entre les éditeurs et les auteurs. Les auteurs, c'est-à-dire les organismes dont ils dépendent, s'engagent à ne pas supprimer les abonnements, leur abonnement, si les articles sont publiés ouverts. Vous voyez. Parce qu'on pourrait évidemment imaginer que certains organismes ou universités ils disent « Ah ben, puisque tout ça c'est ouvert, il n'y a plus besoin de s'abonner. » Donc il y a une relation de confiance qui pourrait s'établir. C'est un des mouvements possibles. Il y en a d'autres aussi. Hein.
Par exemple
vous avez des éditeurs qui acceptent que les auteurs mettent sur des serveurs dès la publication de l'article, l'article édité. Vous voyez, ça existe. Par exemple, les Américains de l'American Physical Society ou les Français avec EDP Sciences acceptent ça. C'est-à-dire que l'article peut être mis sur serveur alors ouvert. Par exemple, en France, c'est le serveur HAL qui est le serveur, je dirais, institutionnel, mais il y en a bien d'autres, par les universités. Ça permet d'ouvrir dans le système des abonnements. Ceci étant, dans ce cas-là, et c'est vrai par exemple pour les journaux américains en physique, les articles ne sont pas associés à une licence CC-BY. C'est-à-dire que les articles sont ouverts, mais la réutilisation n'est pas autorisée. C'est-à-dire que si les auteurs admettent, veulent bien que leurs articles et leurs données soient réutilisées, ils doivent payer en supplément des sommes qui sont assez considérables. Donc, même dans le système abonnement, il y a des possibilités d'ouverture. On n'a pas besoin de tout bouleverser. Il y a aussi, dans le système abonnement, ce qu'on appelle les journaux hybrides. C'est-à-dire qu'un article est publié sous abonnement, mais les auteurs peuvent demander à ce que leur article apparaisse libre, c'est-à-dire en science ouverte. Mais dans ces conditions, et c'est vrai, c'est surtout le cas pour les journaux appelés de prestige, les quelques revues qui sont jugées prestigieuses par leur impact, je dirais les frais, ce qu'on appelle les APC, c'est-à-dire les charges qui sont demandées pour ouverture, peuvent être considérables dans certaines revues de prestige.
Pour bien comprendre, un auteur doit payer la revue pour publier.
Pour publier ouvert, attention. Ces revues de prestige, elles acceptent les articles sans frais. Bien sûr, elles fonctionnent sous abonnement. Mais si un auteur particulier souhaite que son travail soit diffusé en ouvert, il doit payer des sommes qui peuvent aller jusqu'à 10 000 euros par article. Alors, 10 000 euros, c'est quand même assez considérable. Tout ça, c'est quand même pris sur des budgets publics. Même si ces budgets passent par la communauté européenne, puisqu'il y a beaucoup de contrats qui viennent de l'ERC à Bruxelles, ce sont à l'origine tout de même des budgets publics.
Et justement, on se pose la question du financement. Parce qu'avoir cette science ouverte, il faut bien que quelqu'un paye d'une certaine façon les serveurs, le travail d'édition aussi.
Absolument. Et je dirais, le but des recommandations n'est pas du tout d'attaquer frontalement les éditeurs. Les éditeurs doivent être des partenaires, mais je pense, et ça c'est l'opinion à peu près générale dans la recherche, c'est qu'actuellement, le coût de l'édition est quand même beaucoup trop élevé. Et ça, c'est tout simplement dû au fait que les bénéfices sont gigantesques. Et donc, il faut quand même ramener à des sommes plus raisonnables le coût de l'édition. La science actuellement, la recherche, a bien besoin de crédits. Et on peut peut-être faire quelques économies sur l'édition.
Et alors, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça ?
Alors, les chercheurs sont globalement favorables au libre accès. Et ils en comprennent d'ailleurs l'enjeu. Mais l'une de leurs préoccupations principales, c'est le choix du lieu de publication. Parce que, pour eux, actuellement, là où ils publient, c'est un peu la manière dont ils seront évalués par leur pair. C'est-à-dire que s'ils publient dans une revue, s'ils arrivent à publier dans une revue de prestige, ils pensent que leur pair, qui sont eux-mêmes aussi, parce que les chercheurs sont chercheurs et évaluateurs, etc., ils sont dans les deux cas. Beaucoup de schizophrénie, là, justement, chez les chercheurs. Ils pensent que c'est ça qui est dominant. Et on peut les comprendre actuellement. C'est normal, les chercheurs sont préoccupés aussi de leur promotion, de trouver un poste, de trouver des contrats. Et donc, l'évaluation est en fait actuellement au cœur du problème et c'est même probablement toujours le frein à l'ouverture de la science. Donc, un des gros problèmes auxquels s'est attelée l'Académie, c'est une réforme de l'état d'esprit de l'évaluation, des méthodes d'évaluation. Et d'ailleurs, actuellement, il y a une prise de conscience mondiale, et notamment européenne, et ça, c'est une excellente chose, il faut réformer les méthodes d'évaluation. Actuellement, encore, les méthodes d'évaluation sont beaucoup basées sur ce qu'on appelle les indicateurs d'impact.
C'est-à-dire
le quantitatif. Et nous souhaitons beaucoup, je dirais, que l'évaluation prenne en compte le qualitatif. Toutes les activités de la recherche, qui ne sont pas forcément des articles de recherche, mais il peut y avoir des activités annexes, soient inclus dans l'évaluation des chercheurs ou de leurs projets, d'ailleurs.
Et est-ce qu'on peut avoir une idée des critères d'évaluation d'une personne qui se voit soumettre un article ? À quoi fait-elle attention ? Ou devrait-elle faire attention dans des bonnes pratiques ?
Eh bien, il faut regarder, je dirais, la nouveauté, la créativité. Actuellement, c'est un peu facile de... Certains éditeurs disent on va publier dans un domaine qui est très en vogue, etc. Ça leur assure un lectorat important. Et en fait, ce qui est quand même important en recherche, c'est les nouveautés. C'est-à-dire des chercheurs qui osent, dans certains domaines où il n'y a pas encore de précédent, qui osent, qui publient quelque chose qui n'est pas forcément un résultat final, mais quelque chose qui va ouvrir, ou alors, par exemple, aussi l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'actuellement, là, quand même, la recherche fonctionne beaucoup en vertical, en silo, et quand même, il est très important, on le voit, entre, je dirais, les mélanges entre les disciplines, et ça, justement, l'Académie des sciences est assez... je dirais privilégié pour ça, puisque c'est un rassemblement de chercheurs de toutes les disciplines de sciences dures ou sciences du vivant. On voit à quel point c'est fructueux. Et je pense que l'ouverture peut vraiment favoriser ce mélange des disciplines.
Alors, vous parlez d'une prise de conscience, en tout cas au niveau européen. Vous participez à un colloque prochainement qui sera vraiment international. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte d'harmonisation des pratiques ou nous n'en sommes pas du tout là ?
C'est pas facile, mais il y a vraiment maintenant une prise de conscience et un souhait d'harmonisation. L'Académie y a beaucoup participé, hein, et c'est pas récent. Depuis 2009, l'Académie avait réfléchi sur l'évaluation des chercheurs ou des enseignants-chercheurs, publié des rapports. Elle avait aussi réfléchi sur le rôle que ce qu'on appelle la bibliométrie, c'est-à-dire l'évaluation quantitative, peut jouer. Tout n'est pas à jeter, mais il faut l'utiliser avec discernement. Et la priorité, c'est que la qualité doit passer avant la quantité. Les chercheurs, je pense, publient trop. ils publient trop parce qu'ils sont un peu incités par l'évaluation qui est basée sur du quantitatif. Ils devraient publier moins et aussi il devrait y avoir moins d'évaluations parce que les chercheurs sont très souvent harassés par des rapports à faire. Je dirais ils ont quelquefois mieux à faire que d'écrire des rapports sur leurs propres travaux. Donc, leur travail, c'est quand même de chercher et d'essayer de trouver.
Et vous avez parlé de l'Académie des sciences. Et d'ailleurs, l'Académie a donné un peu l'exemple en s'engageant dans cette voie de la science ouverte avec ses propres publications.
Exactement. Alors, l'Académie a les comptes rendus qui sont finalement issus de ce fameux journal des savants, puisque c'est Arago qui avait créé
ça. Il existe toujours.
Ils ont adopté une formule extrêmement vertueuse, qui est ce qu'on appelle la formule diamant. Elle est gratuite. Elle est gratuite pour les auteurs et les lecteurs, ce qui est la formule idéale. Évidemment, je dirais, il y a un budget qui est associé à l'édition de ces comptes rendus qui vient des budgets publics. Enfin, c'est effectivement une formule extrêmement vertueuse qui est d'ailleurs aussi adoptée par certains journaux en SHS notamment, moins en sciences dures et du vivant. Mais bon, elle pose quand même un peu un problème de budget et notamment la pérennisation du budget. Elle est très vertueuse, mais elle n'est pas sans poser quelques problèmes.
Vous avez d'ailleurs eu des débats au sein de l'Académie en préparant ce rapport. La question ne laisse pas indifférent.
Non, et d'ailleurs, ce rapport a été soumis au vote de toute l'Académie, puisque finalement, ce que nous recommandons aura beaucoup plus de poids si c'est une recommandation de l'Académie plutôt qu'une recommandation d'un petit groupe de travail. Et nous espérons qu'à la suite de ce rapport, ça puisse entraîner non seulement les Français, mais aussi l'Europe. Et que l'Académie puisse, avec ce rapport, convaincre à la fois les académies sœurs en Europe et aussi plus loin que l'Académie, c'est-à-dire l'Union européenne, qui fait quand même un effort très important, qui a une prise de conscience avec un effort pour l'ouverture de la science.
Certaines disciplines sont-elles plus engagées que d'autres dans ce chemin de transition ?
Oui, absolument. Les mathématiciens sont vertueux. Elles sont beaucoup plus engagées que les autres. C'est-à-dire qu'on parlait du 50% en moyenne d'ouverture. Les mathématiciens sont au moins 70%. Il y a une très forte utilisation des serveurs, d'ailleurs, des serveurs où les articles sont présentés ouverts, mais je dirais même avant leur publication. Les physiciens sont aussi relativement vertueux. Il y a une montée en puissance actuellement de la biologie. Et en fait, la pandémie, c'est un des, j'irais, des effets, on pourrait dire pervers, mais enfin un des bons effets, ça a permis une montée en puissance des serveurs en biologie comme BioArchive, qui a énormément augmenté depuis les publications des derniers articles sur la pandémie relative au virus. D'autres domaines, par contre, sont un peu à la traîne, comme la chimie. Malheureusement, c'est un domaine assez traditionnel et il y a beaucoup d'efforts à faire en chimie et aussi en sciences de l'ingénieur.
Est-ce que dans certains domaines, il pourrait être préférable d'avoir une certaine prudence, une certaine réserve, parce qu'il peut y avoir également des données sensibles qu'il n'est pas bon de diffuser largement ?
Il peut, effectivement. Et enfin, le risque, et qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il pourrait y avoir, avec l'ouverture, une dégradation sur la qualité de la recherche, une recherche non validée. Et c'est pour ça que nous insistons beaucoup sur une science ouverte validée, ou même si c'est une science qui est mal validée. Parce que le travail d'évaluation, il est très important. Et quand des chercheurs, je dirais, lisent un article et font leurs remarques, ça peut représenter un travail très conséquent pour eux. Ça peut être plusieurs journées, si ce n'est plusieurs semaine. Donc ça, c'est un des problèmes, un des risques qu'il faut prendre en compte. Et d'autre part, un autre risque, c'est que si certains éditeurs disent ben, « nous publions tous nos articles en sciences ouvertes, mais nous demandons aux chercheurs de payer », c'est le modèle Gold, qui est très prisé d'ailleurs en Grande-Bretagne, il peut aussi y avoir des augmentations de budget conséquentes. Et ça, il faut un peu se méfier que des éditeurs privés ne prennent pas cette occasion-là pour augmenter encore les coûts de l'édition. Et finalement, puisque les données, on souhaite que les données soient ouvertes, il faut faire quand même assez attention parce qu'il y a des données qui sont très sensibles. Et,
par exemple
Les données, par exemple, en génomique peuvent être extrêmement sensibles, mais il y a bien d'autres domaines où les données sont importantes. Il y a une phrase qui est très souvent utilisée, c'est que ces données doivent être aussi ouvertes que possible, mais aussi fermées que nécessaire. Vous voyez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les données représentent un produit commercialisable très important et on peut peut-être même envisager le jour où l'article lui-même, c'est-à-dire sous forme PDF, soit finalement mis ouvert gratuitement. Mais que les éditeurs, eux, conservent les données et les réutilisent et les revendent au prix fort. Donc ça, c'est aussi une des possibilités, les données, et c'est un sujet ultra sensible actuellement, et je pense qu'il n'y a pas encore de modèle qui a été établi.
Nous avons bien compris que nous sommes en transition et que le modèle se cherche encore un peu. Peut-être que nous pourrions finir sur les étudiants, parce que l'avis de l'Académie des sciences insiste beaucoup sur la formation des jeunes scientifiques assez pratiques, et notamment à celle d'une bonne évaluation.
Oui, on ne s'intitule pas évaluateur comme ça. Alors actuellement, ce qui est mon cas, il n'y avait aucune formation à l'évaluation. Les éditeurs nous envoyaient des articles, nous demandaient si on voulait bien l'évaluer, faire nos remarques, etc. C'est pareil un peu pour les dossiers, que d'ailleurs l'Académie traite beaucoup de dossiers. Ce sont par exemple les dossiers pour les prix, les dossiers pour les nominations de nouveaux académiciens, des élections, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers, ou des nominations à des postes à l'extérieur où on demande l'avis de l'Académie. Et effectivement, il serait très souhaitable actuellement que l'évaluation fasse partie d'un module d'enseignement au niveau des écoles doctorales, de manière que tous les étudiants comprennent ce que c'est l'évaluation et une formation pour une évaluation qualitative. Sinon, la voie de facilité, qui est malheureusement trop employée, c'est on regarde uniquement les indicateurs d'impact d'un travail ou d'un dossier. Donc la formation à l'évaluation est aussi quelque chose que nous demandons généralisable à toutes les universités et les organismes.
Elle leur permettrait également d'être de meilleurs auteurs.
Du même coup, ça leur permettrait absolument, parce qu'ils comprendraient les enjeux de l'évaluation quand ils sont eux-mêmes évalués.
En quelques mots, comment voyez-vous l'avenir de la science ouverte, si vous deviez rêver?
Je suis relativement optimiste, parce qu'il y a une prise de conscience assez récente. Le ministère de la Recherche a, depuis plus de 2 ans, lancé, c'est la ministre Frédérique Vidal, a lancé le plan national pour la science ouverte. Donc il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites. La science, elle va s'ouvrir de toute façon parce que les intérêts sont de tous les côtés. Ils ne sont pas forcément convergents, il faut voir. Mais ça va tout de même converger vers une ouverture. Il y aura des accords qui vont se faire entre le monde de l'édition et le monde des scientifiques. Non, je suis relativement optimiste et ça pourrait même aller plus rapidement qu'on ne le croit. Enfin, le ministère de la Recherche souhaite que 100% des publications françaises soient ouvertes en 2030. Et il est possible que ça aille même plus rapidement que cela.
Eh bien, un grand merci, Denis Jérôme, de nous avoir expliqué ces enjeux de la science ouverte. Je rappelle que l'Académie des sciences vient de publier une recommandation pour une bonne mise en pratique des principes de la science ouverte et que vous participez à un grand colloque, c'est l'OSEC, il y a un site internet dédié qu'on peut suivre en ligne les 4 et 5 février.
Ben, je vous remercie et je précise qu'au niveau des inscriptions, ce colloque est une réussite puisque déjà plus de 1500 participants se sont inscrits à ce colloque qui malheureusement a lieu en visio.
Eh bien, un grand merci et à bientôt.
Merci. Thank you.